l'innovation.
Et de l'innovation.
L'écosystème innovant.
Social innovation.
On a beaucoup d'innovation.
L'innovation. L'innovation radicale.
Pépite, c'est le podcast du MTI qui vous parle innovation et technologie d'aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Gaïa et je suis accompagnée de Félix aujourd'hui.
Bonjour à tous.
Et aujourd'hui, on reçoit Julie Simon qui travaille à Yes We Camp. Bonjour Julie et merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que tu peux tout simplement te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais au sein de Yes We Camp ?
Donc je m'appelle Julie, j'ai 29 ans et à Yes We Camp, je suis membre depuis 2013 de l'association. J'ai occupé différentes positions et depuis 2 ans et demi, je suis en coordination d'une formation qui s'intitule Espace commun. Et depuis quelques jours, je m'occupe du développement de nouveaux projets.
D'accord, très bien. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites à Yes We Camp ?
Alors, Yes We Camp, nous, notre objet, ça va être de construire et d'animer des espaces pour y permettre le développement de différentes activités à destination de différents publics. Donc, ça paraît très, très large dit comme ça. L'idée, c'est de pouvoir, par exemple, de manière temporaire, occuper un ancien hôpital, comme ça a été le cas à Paris, et d'y accueillir des centres d'hébergement, d'y accueillir des ateliers bureaux pour des artisans en dessous des prix du marché, mais également du public extérieur à travers du bar, de la restauration, de la programmation culturelle.
Ok, donc en fait, c'est un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui des tiers-lieux, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça.
Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que les tiers-lieux pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément de notion par rapport à ça ?
Les tiers-lieux, ça prend plein de formes et surtout la forme va beaucoup dépendre du territoire dans lequel ils se trouvent. L'idée de départ, c'est de se dire que c'est un endroit qui n'est ni tout à fait un lieu de vie, son chez soi, ni tout à fait un lieu de travail, mais un lieu entre les deux. Nous, notre définition à Yes We Camp d'un tiers-lieu, c'est souvent un espace qu'on occupe de manière temporaire pour pouvoir utiliser cette ressource de l'espace vacant dans les villes. Et c'est un espace où on va pouvoir croiser différentes activités en faisant le pari de l'émergence d'un écosystème fertile.
Ok. Et du coup, comment est-ce que ça se déroule un peu l'aménagement et la conception de ces espaces, du choix du lieu ? La relation au pouvoir public, les relations avec les associations aussi, le voisinage. Est-ce que c'est vous qui coordonnez tout et est-ce qu'il y a vraiment un travail de fond qui est fait ? Comment ça se déroule de manière assez opérationnelle et concrète ?
Souvent, on essaie d'avoir une réponse générique à toutes ces questions, mais malheureusement, on n'en a pas, puisque chaque projet est assez différent dans sa forme, dans ses parties prenantes, etc. Si on prend l'exemple d'un tiers-lieu qu'on a développé à Marseille, Coco-Velten, on a été appelé par l'État qui souhaitait monter un projet innovant de mise à l'abri de personnes qui étaient à la rue. Ils avaient eux-mêmes identifié un bâtiment de l'État. Et donc, il y a toute une phase d'abord de préparation du projet. Ça va être de réfléchir à l'aménagement du lieu en se disant que puisqu'on fait une occupation temporaire, il faut réfléchir à un aménagement économe, ne pas dépenser trop de sous pour une occupation de 3 ans, mais également de réfléchir avec tout le quartier. Donc c'est beaucoup de réunions, de concertations, de rencontres avec les associations de quartier, mais également de réflexion autour du modèle économique qui est un peu comme partout le nerf de la guerre, réussir à financer ses projets sur un temps très court. Et également de réfléchir à la direction éditoriale. C'est quoi le récit du projet ? Qu'est-ce qui va faire son acceptation par les habitants, mais également politiquement ? Voilà.
Ces projets-là, il me semble qu'ils sont temporaires, non ? Parce que les grands voisins, ça avait duré 5 ans, c'est bien ça, si je ne me trompe pas ?
Oui.
Est-ce que vous devez penser à l'après, dès que vous arrivez dans un espace, ou est-ce que justement, vous n'avez pas trop d'idées de comment ça va se passer dans le temps ?
On parle d'occupation temporaire et d'urbanisme transitoire. Ce n'est pas la même chose. Une occupation temporaire, c'est les grands voisins. On était d'abord là pour une période de 2 ans et demi. C'est une occupation temporaire puisqu'on sait qu'ensuite, il y a un programme. C'est-à-dire qu'aux grands voisins, il y avait un programme de logement sur tout le quartier. Nous, on est là que dans l'interstice, le temps de l'occupation temporaire. Puis finalement, l'aménageur qui écrivait le futur quartier, a décidé de prolonger l'occupation temporaire pour faire en sorte de pouvoir comment dire, écrire aussi avec, avec nous, les occupants temporaires, le futur programme du quartier. Donc à ce moment-là, on passe d'une occupation temporaire à de l'urbanisme transitoire avec cette idée de transition vers un autre programme. Si on prend l'exemple de Coco-Velten, le bâtiment n'a pas encore de projet. Donc là, évidemment, tout reste à écrire pour la suite. Mais au départ, en fait, si nous, l'occupation temporaire, c'est un outil. Le fait de faire ça de manière temporaire, ça permet de, comment dire, d'agir de manière rapide et avec beaucoup d'énergie. Tout le monde sait que, qu'on est là pendant 3 ans. Donc à ce moment-là, on donne tout pour... on ne peut pas se dire, ah bah c'est pas grave, ça, je vais le faire dans 1 an ou dans 2 ans. On est obligé de le faire tout de suite. Donc c'est là l'utilité de l'occupation temporaire. On ne pense pas forcément à la suite. Nous, on dit qu'à partir du moment où il faut rendre les clés, on les rendra. Et puis parfois, il y a des opportunités pour la suite.
C'est assez intéressant parce que, notamment à Paris, il y a toute une problématique d'immeubles inoccupés. Et du coup, est-ce que selon toi, cet aménagement temporaire, il peut résoudre des problèmes d'occupation d'espace, d'accueil de populations défavorisées et apporter une certaine réflexion autour des nouvelles formes de travail, de vie, d'interaction?
Moi, je pense que en fait, la vacance immobilière peut accueillir toutes les activités qui ne peuvent plus être accueillies traditionnellement dans des villes, notamment dans des villes qui sont sous tension, comme Paris. Et ça va être des activités artistiques qui sont de plus en plus poussées à la marge des villes, qui n'arrivent plus à trouver de locaux pour leurs pratiques. Ça peut être des activités d'entrepreneuriat social, l'accueil de populations défavorisées, avec toujours en tête comment dire, l'idée que tous les bâtiments ne peuvent pas accueillir ces activités et pas sur toutes les durées. Nous, souvent, on vient nous voir, on nous dit, bah voilà, on a un bâtiment libre pendant 6 mois, est-ce que vous pouvez y faire quelque chose? Oui, très bien, on peut le faire, mais si vous nous payez, puisqu'il y a quand même tout un temps d'arriver dans un bâtiment et de faire exister une activité et de lui trouver un modèle économique.
C'est quoi l'avantage en fait pour l'aménageur du coup d'avoir cette transition entre le moment où il n'y avait rien et l'ensuite où il va pouvoir prendre possession de ce bien immobilier?
Donc pour l'aménageur qui n'a pas forcément les mêmes enjeux que un promoteur ou un propriétaire de bâtiment. Voilà. L'aménageur, son avantage, ça va être, nous on pense, si l'occupation temporaire elle est pensée en amont, avec l'aménageur, ça va permettre, à mon sens, de pouvoir écrire la suite du projet et de faire face à certains, comment dire, pardon, à certains blocages.
Ouais.
Qui pourrait advenir, ne serait-ce que des blocages des habitants du quartier qui ne comprennent pas pourquoi on leur construit un immeuble de 6 étages en face de leur habitation. Mais donc des conflits d'usage, mais également des surcoûts liés au fait que souvent les quartiers sont livrés un peu vides. Et derrière, il y a tout un effort qui est mis par, donc ça va être par les promoteurs ou par la ville, un effort pour essayer de faire vivre ce quartier qui a été livré vide. Alors qu'y mettre une occupation temporaire qui réfléchit notamment aux futurs usages de ce quartier, à son identité, ça permet de faire en sorte que quand on livre ce quartier, il ne va pas arriver comme une coquille vide.
D'accord. Et comme disait Félix tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux autour des villes contemporaines maintenant avec le travail, etc. Et Yes Wecom, ce que vous mettez beaucoup en avant aussi, c'est la force du collectif dans le sens où, par exemple, au Grand Voisin, pour y avoir été quelques fois, tout le monde participe, c'est des bénévoles, il y a des ateliers de menuiserie, des restaurants, etc. À ton avis, c'est quoi la force du collectif et comment est-ce que nous, ça pourrait nous inspirer aujourd'hui pour travailler ou même vivre ensemble? Parce que c'est vrai que maintenant, en fait, on vit tous très séparément, on a tous nos travails, nos compétences qui sont hyper perso. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer de ça, en fait?
Si je reprends sur les enjeux des villes contemporaines, finalement, c'est un peu les enjeux du monde. Nos enjeux, c'est... on voit bien qu'on est en train de détruire les ressources de la planète et qu'il faut penser notre présence sur Terre de manière plus frugale. c'est aussi la montée des inégalités, le fait que des personnes se retrouvent à la rue, incapables de se loger, incapables de manger. Et finalement, ces lieux-là, ça permet de répondre à ces enjeux-là en créant des espaces d'implication. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui disent bah oui, moi, j'ai envie de m'impliquer à mon échelle, j'ai du temps à donner, mais je ne sais pas où le faire. Et finalement, c'est les espaces tels qu'on les conçoit et que beaucoup d'autres les conçoivent, c'est des espaces qui permettent l'implication et permettent à chacun, individuellement, non seulement d'apprendre, mais aussi de participer à construire des réponses face à ces enjeux de destruction de la planète et de manque d'entraide. Et le collectif, en fait, la force du collectif, c'est justement... Nous, on parle bien d'un objet-lieu, on parle d'un endroit. C'est-à-dire qu'on pense que structurellement, il faut mettre des personnes différentes à un même endroit. Et c'est à travers ces croisements, ces rencontres, que va naître ces collaborations fertiles. Et finalement, le collectif, on fait tous les choses de manière assez collective, quand on vit en coloc, quand on est à l'école, mais on est très peu confronté à des personnes qui ne sont pas comme nous. Et c'est justement ça la force de ces tiers-lieux.
Est-ce que vous avez développé un certain modèle de gouvernance au sein des tiers-lieux? Comment est-ce que ça se passe pour prendre des décisions?
Alors, la gouvernance, c'est toujours une grande question, puisqu'il y a une espèce de promesse / fantasme de la gouvernance ouverte dans les lieux, alors que justement, la gouvernance, c'est limite ce qui arrive à la fin du tiers-lieu. Nous, on est plutôt partisans d'une direction éditoriale assez, assez forte. Si on a la confiance des propriétaires, c'est parce que nous, on s'engage pendant 3 ans à mettre en œuvre le projet. Et après, la gouvernance, elle se fabrique par briques entre les personnes qui se croisent. Elle naît forcément d'une nécessité, la gouvernance. Au Grand Voisin, ça va être un grand espace extérieur, plusieurs personnes qui ont envie d'organiser des événements. Donc, elles se regroupent en un cercle programmation pour organiser des événements. Pareil, on se rend compte qu'au Grand Voisin, il y a beaucoup de personnes qui ont une pratique d'art plastique, donc qui décident de se regrouper ensemble. Et voilà, de nous donner la gouvernance. Donc, on n'a pas forcément de modèle de gouvernance. Après, nous, on a un modèle plutôt de nous, notre place de Yes We Camp dans ce projet global, mais qui n'est finalement qu'une partie de cette gouvernance globale qui implique la collectivité, qui implique les voisins, qui implique les usagers, qui implique les occupants du lieu. Voilà, je ne sais pas si c'est
très, si, si, c'est très clair.
Et donc, toi, tu disais au début que tu travaillais à espace commun, donc j'ai fait quelques recherches, j'ai vu que c'était un diplôme, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est et ce que ça implique?
C'est la genèse de ce diplôme, c'est après les Grands Voisins, cette pratique de l'occupation temporaire, de l'urbanisme transitoire connaît un fort essor et on est beaucoup sollicité, ne serait-ce que par les propriétaires qui souhaitent monter des Grands Voisins dans leur lieu, ou des collectifs qui souhaitent créer un projet dans un lieu mais n'ont pas forcément la confiance des propriétaires. Donc nous, on s'est posé la question comment transmettre ce savoir qui est très vivant, qui n'existe pas quand on apprend l'histoire, on a un manuel d'histoire. Quand on gère un tiers-lieu, il n'y a pas de manuel de tiers-lieu, pas encore et peut-être jamais. C'est quelque chose, c'est un savoir qui réside dans les personnes qui gèrent ces lieux. Donc on s'est dit qu'on allait mettre autour de la même table des personnes qui travaillent dans des lieux, des personnes qui ont envie de monter des lieux et des personnes en situation de pouvoir, entre guillemets, ça va être des aménageurs, des collectivités qui traitent de ce problème du lieu de plus en plus et organiser ce partage de connaissances entre ces 3 types de publics. Et ce partage de connaissances, on va l'organiser en allant à la rencontre de différents lieux, de manière nomade. Donc c'est très concrètement, ça a l'air compliqué comme ça, mais très concrètement, c'est une formation de 140 heures, avec plusieurs voyages de 3 jours dans des lieux, mais également des sessions thématiques autour de la question des modèles économiques, de la gouvernance, de la programmation, ou de la norme et des réglementations de lieux.
D'accord, donc ça veut dire qu'on pourrait presque assister en fait à une professionnalisation du métier du tiers-lieu, alors qu'avant c'était plutôt un concept plutôt qu'un vrai domaine de métier. c'est ça?
La dénomination gestionnaire de tiers-lieu, je crois que c'est une catégorie de métier qui vient, ou en tout cas une certification de compétences qui vient tout juste d'être établie. Donc oui, d'un côté, on assiste à une professionnalisation, mais ce qui est une bonne chose, puisque souvent, professionnalisation, ça va avec des lignes de financement dédiées qui sont nécessaires pour pouvoir monter des projets qui sont souvent très difficiles comme les nôtres. Après, moi, je ne crois pas que... comment dire, il est nécessaire d'avoir des compétences. Il est aussi nécessaire d'avoir une équipe. Ce sont des projets éminemment collectifs, ces projets-là. Et une professionnalisation, peut-être plus que professionnalisation d'un individu à travers l'existence d'un métier, c'est une professionnalisation via le développement de réseaux. Ils sont très importants. Puisque c'est accéder à des ressources et pouvoir s'entraider les uns les autres. Il y a beaucoup de réseaux qui commencent à émerger à travers tout le territoire et c'est vraiment là où il y a une professionnalisation, je trouve.
Et du coup, est-ce que selon toi, on tend vers une certaine pérennité de ces lieux-là et est-ce que c'est un objectif finalement d'arriver à une certaine pérennité comme vous l'avez fait au Grand Voisin qui a quand même duré 5 ans quand on voit que certains lieux durent beaucoup moins longtemps ?
Plutôt que la pérennité des lieux, enfin, c'est important. Nous, on pense qu'un lieu qui dure 10 ans, 20 ans, c'est très bien. Un lieu qui dure 3 ans aussi. Chaque lieu a son contexte et toutes les situations sont différentes. Ce qu'il faudrait réussir à arriver, c'est à la pérennisation des structures qui mènent ce type de projet. On voit encore, que ce soit Yespéquence, mais encore d'autres, ce sont des projets qui sont difficiles. Les Grands Voisins ont créé un bar-restaurant qui devient une destination. Derrière, quand on part, on n'a pas de plus-value. On a tout investi dans le lieu pendant 5 ans. On n'a pas de fonds de commerce à revendre. Et voilà, je pense qu'il faut se poser la question de comment on pérennise ces structures. Et c'est avec peut-être plus de financement dédié. Mais également un aménagement, on va dire. Là, je parle uniquement pour l'occupation temporaire. Un aménagement de la norme et de la réglementation. Voilà. Et puis, on se rend compte aussi que ces lieux, il y a un espèce d'effet de mode. Surtout, bah, forcément, dans le milieu dans lequel on est, de l'innovation, on en a parlé. Des tables rondes sur les tiers-lieux, il y en a de plus en plus. Au final, c'est minuscule. Si on prend tous les lieux... tous les espaces de loisirs à l'échelle du territoire, les tiers-lieux, c'est minuscule. Et donc, se demander comment rendre plus facile l'accession à des espaces pour mener ce type de projet.
Tu parlais justement d'effet de mode, et c'est ça qui est assez fascinant au Grand Voisin, par exemple. Je me rappelle qu'il y avait des enfants, des familles, des personnes âgées qui venaient là le soir, il y avait des concerts de rap, et puis à côté, tu avais une famille en train de manger son repas, et le lendemain, tu avais des étudiants qui venaient bruncher. Et je trouvais ça assez fantastique, parce que quand on arrive dans ce genre d'endroit, on a l'impression qu'on peut parler à tout le monde, que tout est permis, et c'est un petit peu ça qui nous manque aussi dans la vie de tous les jours, encore plus avec le Covid. Mais je trouvais ça génial qu'on puisse appliquer ça à encore plus d'endroits et que ça devienne presque une norme, mais est-ce que du coup, ça enlèverait ce côté un petit peu incroyable des tiers-lieux ?
Non, je pense pas. Ce serait bien de se dire que nos halls d'immeubles, nos cours, nos jardins soient plus d'endroits de rencontre, des endroits où c'est peut-être plus simple de laisser son enfant gambader librement comme c'était le cas au Grand Voisin, des endroits où on peut demander de l'aide et avoir quelqu'un qui nous aide. Les tiers-lieux, l'avantage du tiers-lieu, c'est que ces projets ont lieu dans un cadre fixe et dans un périmètre fermé. C'est ce que je disais un petit peu sur l'occupation temporaire. Vu que c'est exceptionnel, et ben on donne toute son énergie. Après, si je reprends... Pardon, j'ai oublié le fil de ta...
Non, mais tu t'as très bien répondu. En effet, justement, tous ces espaces communs qu'on partage au quotidien, et au final, on est hyper segmenté. Les cours d'école, les halls d'immeubles... Non, en fait, ce serait super de pouvoir appliquer ça au quotidien. Et ça revient encore aux enjeux des villes contemporaines. On est tous dans des bulles complètement renfermées sur nous-mêmes, en tout cas. Et ça revient aussi... Vas-y.
Enfin, ça, c'est aussi le boulot. Comment dire, comme je disais, nous, on nous donne un bâtiment et puis on mène un projet avec tout notre cœur, notre énergie, nos connaissances, notre expérience. Après, il y a une responsabilité qui tient plus du politique, de la collectivité, de l'aménageur, des investisseurs, de faire en sorte que ces projets puissent exister et de se poser la question de comment, en fait, faire passer à l'échelle ces pratiques-là, comment faire en sorte que quand on imagine une ZAC, une zone d'aménagement concertée, on pense le projet de manière cohérente du début à la fin et de pas se retrouver avec une occupation temporaire qui émerge parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une vacance de 2 ans.
Est-ce que selon toi, il y a aussi un enjeu de travailler avec plus d'acteurs privés? Parce qu'on parle beaucoup de collectivités qui donnent des lieux, mais il y a aussi énormément de lieux un peu partout en France qui sont détenus par des entreprises privées et inoccupés depuis 15-20 ans. Est-ce que selon toi, c'est un enjeu d'aller toquer à leur porte demain et d'avoir une occupation temporaire dans ces lieux-là?
Oui, après, une nouvelle fois, peut-être que je suis très française, mais je crois beaucoup à l'intermédiation de la puissance publique pour les contraindre. On va pas se mentir, quand il y a un acteur libéral, il doit avoir un avantage autre que celui d'économiser des coûts de. Alors, déjà, économiser des coûts de jardinage, mais également les propriétaires privés ont peur souvent du squat, tout simplement. Ils ont peur qu'on ne leur rende pas les clés à la fin. Et je pense qu'il y a tout un travail qui peut être fait par les villes, par les régions, d'identifier tout ce patrimoine vacant, de trouver peut-être un moyen de coercition, de se dire que, il y a une taxe si tu laisses ton patrimoine, ton bâti vacant, et de faciliter la mise en connexion d'un porteur de projet et d'un propriétaire.
Du coup, tu as parlé des squats. Est-ce qu'il y a aussi un enjeu de ce côté-là, justement, pour... Enfin, je ne sais pas comment ça se passe entre... Enfin, justement, pour différencier le tiers-lieu du squat, il y a des moments où certains squats peuvent être totalement des tiers-lieux, mais ils ne passent pas forcément par les bonnes portes et par les bons moyens. Et du coup, selon toi, est-ce qu'il y a aussi un enjeu pour, d'une certaine manière... sensibiliser ceux qui squattent à vos pratiques ou alors je sais pas, peut-être créer un label sur le tiers-lieu à travers les formations.
Oui, en effet, enfin, déjà, nous, si on a créé cette formation, c'était justement pour créer un label de confiance, dire aux propriétaires, cet acteur, cette actrice a fait la formation. Vous pouvez lui faire confiance parce qu'il ou elle fait partie d'un réseau désormais et a été formé à des compétences, mais surtout une posture, une manière d'être. Concernant le squat, moi, je pense que le squat est nécessaire et salutaire, qu'il y a toute une dimension politique qui existe aussi dans le tiers-lieu, mais peut-être encore plus partisane dans les squats. Le squat, l'avantage, c'est que, comment dire? Enfin, plutôt le tiers-lieu, ce serait peut-être à mettre à portée de main de beaucoup de la du plus grand nombre de citoyens. Des pratiques du squat qu'ils ne pourraient pas avoir. Moi, je sais même aller dans un squat artistique, ça peut être parfois ça peut faire peur à certaines personnes. Enfin, c'est des pratiques qui sont tout de suite vues comme très alternatives, alors que finalement ce sont des pratiques de l'innovation et des pratiques presque du futur, d'entraide, de vivre ensemble, mais également de gestion des conflits. Voilà. Et le tiers-lieu, ça rend peut-être accessible ces pratiques-là.
Ouais. Mais c'est vrai que des fois on observe une certaine dichotomie entre les deux définitions et même dans la pratique. Moi, je me souviens d'un squat à Pantin qui était vachement porté sur l'artisanat, le squat d'artistes qui organisait des événements ouverts avec le public de Pantin et en fait qui était sur la même place que la Cité Fertile. Et ils se sont fait virer. Et le même week-end, il y avait la Cité Fertile qui accueillait le maire et qui organisait une espèce de table ronde autour des enjeux sociaux et écologiques de demain. Et du coup, il y avait une, Je sais pas, c'est marrant parce qu'il y avait une espèce de frontière entre ces squatteux qui essayaient de rester, parce que ça faisait un an qu'ils dynamisaient le lieu, et puis la cité fertile qui était à côté et qui accueillait le maire sur les enjeux qui finalement étaient les mêmes.
Défendu par... Ouais. Mais après, enfin, je ne dis pas qu'en tant que porteur de projet de tiers-lieu, on n'a pas notre responsabilité, mais il faut faire attention à... Comment dire, à bien... La responsabilité de ce qui se passe, quelque chose ou pas dans une ville, que quelque chose se pérennise ou pas, elle est celle du maire, de la maire, ou du propriétaire du bâtiment. Et peut-être que avec la cité fertile ou un grand voisin ou etc., et ben les mairies vont devenir de moins en moins, comment dire,
frileuses.
Ouais, voilà, frileuses de ce type de pratique.
Et tout à l'heure, on parlait justement de la professionnalisation, puisque c'est ça aussi qui peut-être peut différencier les squats des tiers-lieux, c'est qu'il y a une réelle formation. Pour toi, c'est quoi les profils pertinents qui peuvent être, entre guillemets, utilisés pour animer des tiers-lieux innovants ?
On reparle du collectif, mais je pense qu'il faut avoir le goût du collectif. Souvent des compétences. Alors après, il y a suivant ce qu'on a envie de faire dans son tiers lieu, les compétences, ça peut être celle de quelqu'un qui travaille plutôt le bois, puisque l'activité principale du lieu, ça va être d'être un atelier partagé. Ça peut être la programmation artistique et culturelle. Ça peut être le sport aussi. Voilà, je pense que. Par contre, une des compétences qui est nécessaire de renforcer, c'est tout simplement, et comme pour n'importe quel projet, la question de la gestion économique d'un lieu. Mmh. D'être capable de penser aussi des modèles économiques hybrides entre subventions et autofinancement. La gestion technique aussi, c'est quelque chose qui est assez important. De pouvoir maîtriser des bâtiments qui, la chaudière, ne marche pas toujours très bien. Et puis Internet, ça ne marche plutôt jamais. voilà.
Il y a un petit côté débrouille. Il y a un petit côté débrouille.
Il y a beaucoup de débrouille, beaucoup de souplesse à avoir. Et surtout, beaucoup d'écoute. L'écoute, c'est très, très important dans ce type de projet.
C'est un peu la recherche du mouton à cinq pattes. Comment vous faites pour trouver des gens comme ça ? C'est des gens qui sont internes à l'ESP Camp ou vous lancez des recrutements pour des gens qui viennent de l'extérieur, qu'on fait, je ne sais pas, des formations de management, d'économie, etc.
Alors, pendant des années, les premières années, ESP Camp, c'était beaucoup de cooptation dans le sens des bénévoles qui ensuite étaient bénévoles plus, puis finalement restés. Et puis, dès qu'un poste s'ouvrait, on allait regarder dans les personnes qui étaient déjà là et puis on embauchait des gens. Moi-même, je suis arrivée en bénévole, puis stagiaire, puis premier contrat en 2015. C'est tout l'avantage de la force du groupe. Yes We Camp, c'est à l'époque des grands voisins, c'était à peu près 70 équivalents temps plein, un réseau de 150 personnes. Donc c'est pas grave si je sais pas faire quelque chose, puisque je peux facilement aller poser une question à mon collègue. Donc, mouton à cinq pattes, oui et non, le but, c'est de ne pas savoir tout faire, mais avoir le goût, en tout cas, d'aller chercher les réponses. Quand on a un problème.
Et le temps file, malheureusement. Donc, pour finir, une question un petit peu tournée vers le futur, même si c'est assez incertain en ce moment. Pour toi, quels sont les enjeux de demain pour Yes We Camp et plus globalement, d'ailleurs, pour l'écosystème du tiers-lieu ?
L'enjeu, je pense que c'est déjà de pas fermer. Enfin, clairement, nous, Yes We Camp, ça fait plus de 7 ans qu'on existe et on a encore des forts enjeux de modèle économique. Et c'est aussi, nous, typiquement, ça va être de continuer à... Là, on est sur un podcast d'innovation, c'est de continuer à innover et de trouver les prochains lieux qui vont permettre autant de rencontres, d'apprentissages qu'on a pu en voir aux grands voisins.
Bah, merci beaucoup, Julie, d'être venue avec nous discuter de tout ça. On était ravis de cette discussion. Et pour tous ceux qui nous écoutent, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Pépites.